Un mûrier au bord d'une route de campagne, une voiture anglaise garée sur le bas-côté, une petite fille qui ne verra jamais le matin. Dans la nuit du 4 au 5 août 1952, trois Britanniques trouvent la mort dans les basses Alpes, à quelques pas de la ferme d'une famille provençale. Ce qui devrait être une enquête ordinaire va devenir l'une des plus grandes énigmes judiciaires de la France d'après-guerre. Sir Jack Drummond, scientifique de 61 ans, voyage avec son épouse Anne, 45 ans, et leur fille Elizabeth, 10 ans. Ils sont en vacances. Leur Hillman vert amande est garé à 165 mètres de la Grand-Terre, la ferme de la famille Dominici, un nom qui résonnera bientôt dans toute l'Europe. Ce soir-là, les Dominici célèbrent la fin des moissons. Le patriarche, Gaston, 75 ans, règne sur une tribu de 9 enfants. Son fils, Gustave, le préféré, vit à la ferme avec sa jeune épouse Yvette et leur bébé. Clovis, l'aîné, travaille à la SNCF. Entre eux, des silences, des regards, des secrets peut-être. À 1h10 du matin, 6 ou 7 coups de feu déchirent la nuit. À 4h30, un camionneur remarque un lit de camp devant la Hillman, une couverture qui masque les vitres. À 5h20, un autre témoin voit le lit de camp dressé contre la voiture. Les lieux changent d'apparence entre chaque passage, comme si quelqu'un réarrangeait la scène. Gustave Dominici déclare s'être levé à 5h30. Il affirme avoir découvert le corps d'Elisabeth vers 5h45, le crâne fracassé à coups de crosse sur la pente menant à la Durance. 77 mètres de la voiture. Anne Drummond gît près du véhicule. Jack, de l'autre côté de la route. Tous deux abattus à la carabine. Gustave possède une moto. Pourtant, il interpelle un passant pour prévenir la gendarmerie. Vers 6h30, Clovis et son beau-frère Marcel Boyer arrivent à vélo. Faustin Roure, chef des poseurs de voix, les rejoint. Ensemble, ils découvrent les corps. Mais Marcel remarque quelque chose d'étrange. Clovis semble connaître la position exacte du cadavre de la fillette. Il empêche les autres d'approcher. Sur le chemin du retour, les deux frères parlent à voix basse. Marcel ment d'abord aux gendarmes, avant de se rétracter. L'enquête débute dans la confusion. Les lieux ont été piétinés, les indices contaminés. On retrouve deux paires d'étuis et de cartouches, des empreintes de semelles de crêpe neuves près du corps d'Elisabeth. Une flaque de sang d'1 mètre carré dont on ne saura jamais l'origine. Le commissaire Edmond Sébeille, surnommé « Rien à déclare » par la presse, prend l'affaire en main. Les déclarations des Dominici se contredisent. Gustave change de version. Clovis aussi. Yvette, enceinte, affirme qu'une femme en noir accompagnait les Drummond. Personne ne la retrouvera. Les mois passent. L'affaire fait la une des journaux français et britanniques. L'opinion se divise. Puis, en novembre 1953, Clovis révèle un détail glaçant. Gustave lui aurait parlé des cris d'épouvante et de douleur des Drummond, en présence de témoins, comme s'il savait. Mais c'est Gaston, le patriarche de 75 ans, que l'on accuse. Le vieux qui parle à peine français, qui s'exprime en provençal, qui ne peut vérifier ce que l'on écrit à sa place. En 1954, Gaston Dominici est condamné à mort. Ses aveux, rédigées en français alors qu'il répondait en provençal. Son casier judiciaire, vierge. Son procès, une bascule terrible entre un monde rural fermé sur lui-même et une justice urbaine qui ne comprend pas sa langue. Le 14 juillet 1957, le président René Coty commut la peine en travaux forcés à perpétuité. Le 13 juillet 1960, le général de Gaulle gracie et libère Gaston de Minicy. Il mourra en 1965 sans avoir jamais cessé de clamer son innocence. Les contre-enquêtes se succèdent. Elles pointent les lacunes, les contradictions, les zones d'ombre. Certains parlent d'erreurs judiciaires. D'autres défendent le verdict. Mais personne ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là, sous le mûrier, à 165 mètres de la Grand-Terre. Elisabeth Drummond avait 10 ans. Elle aimait voyager avec ses parents. Elle est morte sur un talus de Provence, le crâne fracassé, à l'aube d'un 5 août. Reste une question, et elle traverse les décennies sans réponse. Qui a tué les Drummond? Et pourquoi a-t-on condamné un vieil homme qui ne parlait pas la langue de ses juges?